France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et ce matin, le plaisir de lire des bandes dessinées. Jeudi prochain débute le festival de la BD d'Angoulême. L'occasion d'explorer le plaisir de lire Tintin, Astérix, Lucky Luke, Spider-Man, Batman, Dragon Ball Z ou One Piece. Deux éminents spécialistes pour évoquer leur goût de la BD, Didier Passamonique et Frédéric Segrist, qui partageront une petite sélection de bandes dessinées qui leur plaisent en ce moment. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Chef du OnePlace à Rungis dans le Val-de-Marne. Une recette saine et gourmande à partager ou pas ?
Plutôt à partager, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est quand on a faim. Donc c'est un dalle, évidemment. Le dalle de lentilles, il fallait la faire celle-là quand même, non ?
Bonjour Violaine de Chanot.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef du Parisien Week-end. Quel sera votre plaisir littéraire à dévorer, donc ce week-end.
C'est un livre qui va secouer. Je vous propose un roman rocambolesque qui mêle simulation de mort, évasion spectaculaire et course-poursuite, et ça se passe dans un couvent.
Ah
voilà.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans le monde réel, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, un plaisir de la BD, moi c'est le plaisir de mes lectures de Lucky Luke, donc aujourd'hui je vous emmène en pleine philosophie morale avec Lucky Luke.
Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, dans la vraie vie, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Écoutez, je vous dis juste que c'est une jeune femme qui a le plus beau nom de famille de la Terre. Enfin, en tout cas, un nom de famille qui me plaît bien. Vous verrez.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne et humoriste, quel est le menu de votre chronique Mauvaise Langue ?
Eh bien, aujourd'hui, Colombo a mené l'enquête et je vais vous révéler pourquoi et comment l'un des hommes les plus riches de la planète est devenu ce qu'il est.
Et elle parle d'elle à la troisième personne.
Oui, tout à fait.
Tout va bien. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Je suis assez attaché au fait, en effet, que la bande dessinée soit un art qui, de manière autonome, en tout cas, ce soit telle qu'elle s'est constituée, telle qu'elle s'est formalisée à la fin du 19e siècle, soit contemporaine de l'invention de l'enfant moderne, de la conscience qu'on a du fait qu'un enfant n'est pas juste un petit homme, comme on l'a pensé longtemps en Occident, mais un être à part, qui a un imaginaire, qui a besoin, comme on commence à le dire dans les manuels de psychologie et de pédagogie à l'usage de la bourgeoisie de la fin du 19e siècle, il y a le thème que j'aime beaucoup de la chambre à soi. Non pas la chambre à soi comme chez Virginia Woolf pour la femme qui a besoin de son indépendance, mais la chambre à soi de l'enfant. L'enfant doit être détaché des parents, il doit mener une enfance où il doit avoir un lieu à lui, ce qui signifie aussi qu'il doit avoir un imaginaire à lui. Et j'ai toujours pensé que la chambre à soi de l'enfant à la fin du 19e, c'était un peu la case de bande dessinée. Comme dans Little Nemo, vous savez, c'est évidemment une des premières grandes bandes dessinées où on ne voit jamais la mer, puisque la voix de la mer vient toujours de l'extérieur, à la fin, dans la dernière case, quand Little Nemo se réveille. Et je pense que la bande dessinée est liée à la constitution de l'enfant moderne comme un sujet autonome qui a ses rêves, qui a son imagination, qui a sa manière de voir et de raconter le monde.
L'écrivain et philosophe Tristan Garcia, toujours aussi brillant en mai 2016 dans l'excellente émission Pop Fiction sur France Inter. Bonjour Didier Passamonique.
On va vous laisser tranquille. Hein.
Bonjour Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site actuabd.com. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la bande dessinée. Vous êtes le commissaire de l'exposition consacrée au manga qui se tiendra en fin d'année au musée Guimet. Bonjour Frédéric Segrist.
Bonjour Ali.
Comédien et humoriste, producteur de l'émission et du podcast Blockbuster sur l'appli Radio France et diffusé évidemment l'été sur France Inter.
Excellent podcast.
Exactement. Comment vous réagissez aux propos de Tristan Garcia, Frédéric Segrist ?
C'est très intéressant. Néanmoins, on tombe dans l'écueil dès le début qu'il faut éviter quand on parle de bande dessinée, c'est qu'on associe bande dessinée automatiquement à enfant. Or, c'est un médium. C'est une manière de s'exprimer artistiquement pour absolument tous les âges. Je ne crois pas et je réfute toute personne qui me dit « Ah moi, je ne sais pas lire de bande dessinée » ou non. C'est que tu n'as pas trouvé la bande dessinée qui te correspond, mais c'est un médium à part entière qui s'adresse à la fois à des adultes, à des enfants, des hommes, des femmes, etc. Même si, invariablement, en France, on a voulu presque emprisonner la bande dessinée dans ce royaume de l'enfance.
Didier Passamonic.
Je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, les journaux sont destinés aux adultes. Les premières bandes dessinées sont destinées à un public d'adultes, d'immigrants même, pour le cas de Pim Pam Poum, dont il faut se rappeler que ça a été créé en 1897, donc il y a plus de 100 ans. Donc oui, la bande dessinée a toujours été à la fois pour adultes et pour enfants, mais c'est vrai que c'est assez français de l'enfermer dans l'enfance depuis une centaine d'années.
Didier Passamonic, votre goût pour la BD n'est pas né il y a une centaine d'années. Vous y avez consacré toute votre vie. Comment est né ce goût de la bande dessinée ?
J'ai aucun mérite. Je suis né en Belgique déjà. Donc, et quand j'avais 13 ou 14 ans, je collectionnais les BD. Et puis, il suffisait de regarder l'annuaire et vous aviez Franquin, Hergé. Il suffisait d'appeler, Monsieur Hergé, je peux venir vous voir, je suis fan. Et il disait oui, à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Franquin, Hergé, Tibet, Jacobs, Cuvelier, Jigé, Tillieu, tous les grands belges.
Mais pourquoi ce goût particulier pour ce médium-là ?
Parce que c'est le premier vrai médium multimédia. C'est-à-dire qui touche à la fois au dessin, à l'écriture, à l'imaginaire. C'est de la télévision de papier, je veux dire. Ce que dit Tristan Garcia est juste, c'est qu'avec une BD, on peut s'enfermer dans sa chambre et être dans sa bulle, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, c'est ça qui m'a amené à la BD.
Et c'est vrai, Didier Passamonic, que la grande force de la BD, c'est qu'il s'agit d'un ensemble d'images qui se succèdent et qui coexistent dans un même espace. C'est l'art du mouvement par excellence. Et paradoxalement, peut-être, c'est l'art du mouvement peut-être plus que le cinéma.
C'est l'art aussi de l'émotion. C'est l'art de l'émotion parce que quand on regarde un gag de Franquin, par exemple, le jeu d'acteur, pour faire le lien avec le cinéma, il est incroyable. Mais c'est aussi un art de l'ellipse. C'est-à-dire que d'une case à l'autre, il y a cette bordure blanche qui nous oblige à imaginer ce qui s'est passé entre les deux cases. Et donc, la bande dessinée, elle entre dans notre cerveau bien plus que le cinéma. Je ne vais pas faire du Marshall McLuhan, entre les médias chauds et les médias froids. Mais c'est vrai que le lecteur participe à l'action dans une bande dessinée en la lisant.
Et vous, Frédéric Sigrist, pourquoi la BD, singulièrement les comics et les mangas, vous procurent autant de plaisir ? Comment est né ce goût pour les mangas et les comics ?
Alors,
plus que pour la BD franco-belge.
Déjà parce que c'est, je pense, la première bande dessinée qu'on m'a donnée. C'est-à-dire, j'avais déjà lu des BD franco-belges avant, mais c'était dans le cadre d'emprunts à la bibliothèque ou ce genre de choses. Mais la première bande dessinée qu'on m'a donnée et qui m'appartenait à moi, ça a été un comic book qui n'était absolument pas justement destiné à l'enfant que j'étais, parce que j'avais 6 ans. Mais simplement voir ces histoires, cette mise en scène, ces personnages plus grands que nature qui se parlait. Et pour moi, la bande dessinée, c'est vraiment l'art total. C'est-à-dire que c'est une sorte de dialogue qui s'installe entre le lecteur et l'artiste, et où il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ce qui a été mis sur une planche de bande dessinée, ça a été voulu et pensé par son créateur. Un film, par exemple, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur un film. Un chef-op, un monteur, etc. On peut sauver un film au montage. Une bande dessinée, tout est voulu et par l'artiste seul. Et je trouve que ce dialogue, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans la littérature, sauf que la littérature a à ce petit mépris de classe qui, par le simple fait d'utiliser un vocabulaire qui, des fois, échappe au lecteur. Alors qu'un dessin, on est sur le royaume de l'image, du sensoriel. Et donc, pour moi, la bande dessinée, c'est de la littérature sans mépris de classe. Donc, c'est pour ça que j'aime ça.
Didier Passamonic, vous l'avez dit, le lecteur de bande dessinée est très actif. Une image de bande dessinée n'est jamais une image seule. Lire une BD, c'est percevoir ce qui reste d'identique d'une image à l'autre et ce qui change. Et ce plaisir de la BD réside dans ce système des différences. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui demeure d'une image à l'autre ?
Ce qui fait la force d'une BD, que ce soit un manga, par exemple, le manga et la BD franco-belge, c'est pas du tout le même rythme de lecture. Le manga, par exemple, est en temps réel, on peut dire, tandis que il y a davantage d'ellipses dans une BD. Et ce qui marche particulièrement, c'est qu'il y a une complicité entre l'auteur et le lecteur. Quand vous lisez une aventure de Tintin, que vous voyez ou d'Astérix, par exemple, quand il y a le gag récurrent des pirates, là, il y a un auteur qui s'adresse à l'éditeur en disant je t'ai fait un gag l'autre fois, mais ici tu vas voir une autre variation du gag. Et ça, c'est la magie. Et je pense qu'effectivement, l'immédiateté de l'accès à l'univers est extraordinaire. Et cet accès est très différent selon qu'on est dans une BD réaliste à la Largo Winch, ou dans une BD humoristique à la Franquin, ou dans Calvin et Hobbes, par exemple.
Vous m'avez dit, et c'est peut-être un paradoxe, Frédéric Sigrist, en préparant cette émission, que vous n'aimiez pas les cases dans la bande dessinée.
Quand j'étais au collège, à un moment donné, une de nos professeurs avait décidé de nous montrer comment se fabriquer une bande dessinée. Elle avait pris une œuvre d'Hergé en montrant, voilà, chaque case, à la fin d'une page, on a cet élément qui donne envie de tourner à la page suivante. Et c'était quelque chose de l'ordre de la formule mathématique. Et j'ai horreur des mathématiques et j'ai horreur des règles. Et ce que j'aime aussi dans la bande dessinée, c'est justement quand elle s'affranchit des cases. Les différences culturelles qui peuvent exister entre le manga, le comics et la BD franco-belge, c'est assez parlant. Par exemple, dans un manga, deux personnages vont se parler et tout d'un coup, entre deux cases où on voit les visages des protagonistes, on va avoir une goutte d'eau qui tombe dans une mare, comme ça, et le dessinateur, le mangaka, va prendre le temps de dessiner la feuille avec la goutte d'eau qui ruisselle. Dans un comic book, par exemple, on va figer un moment, deux personnages s'affrontent et tombent d'un immeuble, et ben on va faire une sorte d'arrêt sur image total où les corps vont être sublimés, et cette temporalité, en permanence, elle est fluctuante, elle est assouplie suivant la personne qui dessine, et c'est ça que je trouve magique.
Ben c'est vrai, c'est ce que Thierry Grunstein a théorisé, la bande dessinée c'est l'art du temps.
Et dans un instant, vous allez partager quelques BD qui vous procurent beaucoup de plaisir en ce moment. Mais il est temps de retrouver le plaisir littéraire de Violaine de Chano du Parisien Week-end. Alors, Violaine de Chano, je rappelle donc que vous êtes rédactrice en chef au Parisien Week-end, et vous avez choisi le livre de Joanne de Paul Turin, et c'est publié chez Stock.
Et oui, et il s'agit selon moi d'un petit bonbon de ce début d'année. Alors, Joanne de Leeds a été confiée enfant à un couvent bénédictin après le décès de ses parents. On est en 1318 au nord-est de l'Angleterre, et c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à une petite fille. Oui, mais voilà, Joanne grandit, son tempérament vif et curieux se heurte aux murs et portails clos de l'abbaye. Elle étouffe. Alors avec quelques sœurs complices, nuit après nuit, à la lueur d'une bougie subtilisée dans la cuisine, elle fomente un plan pour s'évader. C'est décidé, elle se fera passer pour morte. Un mannequin la remplacera dans son cercueil, elle s'enfuira. Et à elle, la liberté et qui sait, le plaisir et mille bonheurs inconnus. Dans le premier tiers du roman, on savoure donc cette évasion rocambolesque. On goûte ensuite à la joie de courir à travers la campagne avec la jeune fille. Elle sera aidée dans son voyage par un géant gallois, par une rebouteuse au grand cœur et qui a le visage qui pendouille. Oui, c'est bizarre. Et par un homme petit, manchot et très habile de son unique main. Mais l'inflexible abbesse devine un subterfuge et furieuse lance un homme à la poursuite de l'effronté qu'elle imagine déjà, évidemment, dans un lupanar. Alors ce roman, c'est évidemment l'histoire d'une émancipation. Paul Turin, qui par ailleurs est un auteur aguerri et qui écrit sous pseudo, ne boude pas son plaisir à mettre en scène une jolie Joanne. Elle est pleine d'esprit, elle a la volonté de faire et elle est mue par son désir de liberté. Elle veut jouir de la vie et sans entrave, s'il vous plaît. Et tant pis si elle est une femme, en plein Moyen-Âge, pour elle, c'est de toute façon mieux que la prison dans laquelle Dieu l'a cloîtrée. Et ce qui ajoute au plaisir de la lecture, c'est de savoir que Joanne de Leeds a vraiment vécu. Elle s'est réellement évadée d'un couvent. Trois brèves lignes retrouvées dans les archives ecclésiastiques d'un fonds universitaire britannique en attestent. Et quand l'auteur en a eu vent, eh ben, il est devenu obsédé par cette Joanne et il a inventé la suite de l'histoire de cette rebelle et résistante pour en faire, évidemment, une femme d'une modernité folle.
Et Guillemette Audicino imagine déjà le film qu'on pourrait tirer de ce roman.
Je voyais le décor du couvent, je voyais tout là. Oui, tout à fait.
Violaine de Chano, vous nous avez donné envie de lire le livre de Johan, de Paul Turin, et c'est publié chez Stock, à la une du Parisien Week-end cette semaine.
Alors ce vendredi 24 janvier, dans les kiosques, à la une du magazine, c'est l'œuf, c'est l'aliment superstar plébiscité par les Français, d'autant qu'il est bon marché, c'est pas cher. Un œuf, c'est 60 grammes de bonheur.
Et vous réveillez l'intérêt de Grégory Cohen. Elle est dans les starting blocks, prête à nous présenter son ami du vendredi, Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors, chère Ali, dans l'histoire de la BD franco-belge, il y a eu Bécassine, une Sécotine en second rôle chez Spirou et Fantasio, une Barbarella sexy et peu farouche en version latex de la Libération sexuelle, et une Laureline qui était d'abord prévue pour n'apparaître qu'une fois aux côtés de Valérian, agent spatio-temporel, mais qui fut sauvée par les lecteurs du journal Pilote et finit par imposer son prénom dans le titre de la BD à côté de celui de l'agent masculin. Et puis... Mieux vaut tardi que jamais. Ouais, ouais. Bah ouais.
Pas mal.
Débarqua Adèle Blanc-Sec avec son petit nez retroussé parce que le monde ne sent pas la rose. Hein. Créé en 1976, juste après l'année de la femme, parce que Jacques Tardy voulait bien se lancer dans une série à condition de mettre en scène une femme du début du XXe siècle avec un boulot, puis d'ailleurs le même que le sien, d'ailleurs, écrire des feuilletons.
Ah oui, mieux vaut tardi que jamais, d'accord, je l'ai.
Ah ouais, waouh, ah ouais, bah, oui, bah, mieux vaut tard. Bon, il me casse mon truc là. Premier album et chef d'œuvre direct, Adèle et la bête, dont les premières cases sont datées du 4 novembre 1911, 23h45, dans un lieu de rêve, le Muséum d'Histoire Naturelle du Jardin des Plantes à Paris. Dans cet album, où elle sauve un type de la guillotine quand même, Adèle ne se matérialise qu'à la page 13, sous l'identité d'Edith Rabajoie. Bon, alors c'est un idéal nom d'emprunt. Car, et c'est merveilleux, mon enquêtrice chérie fait la gueule tout le temps. Mais tout le temps, hein, c'est pas une petite moue. Avec ses lèvres qui tombent vraiment devant la folie et la connerie ambiante, sa bouche ressemble à une petite chauve-souris. Au fil des 10 albums qui dessinent le Paris de la Belle Époque comme personne, elle va se confronter, alors entre autres, à des momies baladeuses, des monstres avec tentacules ou pas, des policiers bas du front ou sadiques, un immonde dentiste, des kidnappeurs de bébés, et même la peste et une épidémie de vaccination. Mais le truc d'Adèle, que la curiosité pousse toujours à se rendre à des rendez-vous bizarres, c'est que tout le monde la déteste.
Et ça renforce votre amitié pour elle.
Ah mais oui, évidemment. Car si tous les hommes veulent sa peau, mais vraiment, hein, tous les mecs veulent sa peau, c'est que cette célibataire têtue et rebelle qui se fiche de séduire s'oppose à la guerre, au patriarcat, à la bêtise galonnée et aux scientifiques fous qui se prennent pour Dieu. La rouquine bouscule l'ordre mal établi. La guerre, elle l'emmerde au point de zapper 14-18, puisqu'elle est morte du début à la presque fin du tome 5, Le secret de la salamandre. Mais elle n'est jamais morte, Adèle. Puisque...
Alors c'est à ce moment-là je m'en vais, en fait.
Alors, mais elle n'est jamais morte, Adèle, puisque dans Le noyer à deux têtes, la voya réveillée grâce à Lucien Brindavoine après 6 ans de cryogénisation. Honnêtement, ça donne tellement envie pouvoir se réveiller comme elle dans 4 ans, à la fin du mandat américain. À la dernière page du 10e tome, le dernier, Tardy a écrit « Ainsi s'achèvent pour toujours les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Gare aux faussaires qui seraient tentés d'y donner suite. » Bon, alors, loin de moi, hein, l'idée de contrarier le père de la plus belle héroïne de BD. Mais face à un taré technologique qui fait le salut nazi ou une gigantesque araignée malfaisante en forme de X, on rêverait de voir la petite gueule combative d'Adèle.
Un commentaire sur Adèle Blanc-Sec, professeur Didier Passamonique.
Il y a le dessin de Tardy qui est absolument magnifique. C'est un dessin qui est inspiré justement d'un dessinateur de cette époque-là qui est Gus Boffa. Un beau dessin, très, très délié. Et puis Tardy, oui, un sacré anard. Hein. Vraiment, qui a refusé la Légion d'honneur.
Qui a refusé la Légion d'honneur en 2013.
Voilà, donc...
Par farouche indépendance, je cite.
Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sont à podcaster sur l'appli Radio France. Dans un instant, une petite sélection de bandes dessinées qui vous feront sans doute plaisir. Ce sera juste après avoir écouté Bill Preston, Nothing from Nothing, une chanson sortie en 1974. Interprété Nothing from Nothing.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ?
Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse week-end et nous célébrons le plaisir de lire des BD alors que le Festival d'Angoulême ouvre ses portes au public jeudi prochain. Avec nous, le directeur de la rédaction du site actuabd.com, Didier Passamonique, et le producteur de Blockbuster, Frédéric Sécrist.
Monsieur Tintin, pardonnez-moi, je dois être très prudent. J'ai des choses extrêmement importantes à vous dire, monsieur Tintin. On a besoin de vous. Oh, tenez, une fléchette. Oh, le Rajedja. Vite, qu'avez-vous à me dire? Metsu Elato. On a besoin de votre aide. Metsu Elato. Shanghai.
Oui, d'accord, Shanghai, et ensuite
Shanghai. Je ne sais plus. Tong Xing Nang Pei.
Trop tard. Le malheureux, il est fou. Je vais faire mes bagages.
Mais où allez-vous?
À Shanghai.
Extrait du Lotus Bleu, et on commence avec vous, Didier Passamonique, avec une somptueuse réédition d'une aventure de Tintin, le Lotus Bleu, donc d'Hergé, publié aux éditions Moulinsart et Casterman. Magnifique édition que tout le monde veut piquer autour de la table.
Hein. Bah oui, mais il y a un petit contrepoint entre ce qu'on vient d'entendre et cette BD-là, c'est que cette BD-là, j'ai envie de dire, elle est un peu moins dans la caricature des Chinois, quoi. Voilà. Pourquoi elle est un peu moins dans la caricature des Chinois? Parce que on est en 1934 et Hergé annonce dans le petit 20e qu'il va envoyer Tintin en Chine. Et là, il y a un jésuite qui lui écrit et qui lui dit « Écoutez, mon cher Hergé, si c'est pour décrire les Chinois comme vous l'avez fait avec les Américains, les Congolais et les Arabes, les Indiens, ce serait peut-être pas une bonne idée. Il vaudrait mieux que vous revoyiez un peu vos clichés. Et si vous voulez, je peux vous faire rencontrer un jeune Chinois qui est étudiant d'art à Bruxelles. » Eh bien, ce jeune Chinois, c'est Chang, le Chang de Tintin et le Lotus Bleu qu'on va retrouver dans Tintin au Tibet. Et ce Chang, ben oui, c'est un dessinateur, c'est un sculpteur magnifique. Il y a une biographie d'ailleurs de Chang qui vient de sortir chez Casterman. Et Chang va raconter le dessin à Hergé. Hergé, c'est un enfant de la balle, hein. Il n'a jamais fait les beaux-arts. Et donc, Chang va lui apprendre à dessiner, il va lui apprendre à regarder les estampes japonaises. Et Hergé va changer complètement. C'est le Lotus Bleu, c'est le moment où Hergé atteint son niveau le plus réussi.
Pourquoi cette édition-là?
Et cette édition-là, elle a une double vertu, c'est que c'est l'édition qui reprend les 128 pages de l'époque. Il faut savoir que tous les caractères chinois qui sont dans l'album ont été calligraphiés par Chang lui-même. Donc, il n'y a pas de faute. Et c'est un livre qui a énormément d'importance en Chine, parce que c'est le livre qui raconte l'invasion de la Mandchourie par les Japonais. Et donc, c'est un livre historique. pour Hergé, pour l'histoire, et en même temps, cette édition-là, elle a été colorisée, c'est la première fois qu'il la colorise. Moi, je n'étais pas tellement pour, mais je dois dire qu'ils ont fait là un assez beau travail. Et juste un petit point, c'est qu'il y a un rapport entre Hergé et le Japon. C'est qu'en découvrant les estampes japonaises, il va découvrir ce trait, et surtout la mise en couleur, qui est sans modeler. Et je peux dire ici que l'estampe japonaise est à l'origine de la ligne claire d'Hergé.
Le Lotus Bleu, nouvelle édition aux éditions Moulinsart et Casterman. Alors,
ouais, voilà,
et
ça.
Vous, Frédéric Sigrist, vous avez choisi The Shaolin Cowboy pour une poignée de bof. C'est signé Geoff Darrow et Dave Stewart et c'est publié chez Futuropolis. The Shaolin Cowboy.
Oui. Parce qu'en fait, Geoff Darrow, c'est un vieux briscard de la bande dessinée américaine qui a travaillé avec Frank Miller sur des œuvres que les amateurs de bande dessinée un petit peu underground aiment beaucoup, comme Hardboiled, Big Guy and Rusty. Et en fait, c'est un dessinateur américain, mais qui est complètement influencé par un dessinateur très français, qui s'appelle Moebius, et qui a une manière de dessiner avec profusion de détails, mais tant et si bien qu'en fait, il a été embauché par les sœurs Wachowski au moment où elle proposait le scénario de Matrix. Et avec Steve Squeers, un autre dessinateur de chez Marvel, c'est lui qui a conceptualisé absolument la totalité de l'univers de Matrix, c'est-à-dire les sentinelles avec des tentacules, les bébés qui grandissent dans des... C'est issu du cerveau de Geoff Darrow et Shaolin Cowboy, c'est son bébé à lui, c'est quelqu'un de profondément engagé.
Ça parle de quoi ?
C'est un moine Shaolin qui se promène dans une sorte d'Amérique dystopique du futur avec un âne qui parle en permanence et qui dit des insanités mais à longueur de page. Et en fait, il faut imaginer ce que pourrait être le futur de Mad Max si jamais toute l'Amérique avait évolué trumpiste. Et c'est des rednecks, des passionnés d'extrême droite qui rencontrent ce moine Shaolin forcément et qui veulent détrousser au détour. Et c'est des planches, mais incroyables, sur plusieurs pages comme ça, où il dessine absolument tous les rochers, des monstres mutants, des beaufs d'extrême droite. C'est jouissif.
C'est The Shaolin Cowboy de Geoff Darrow et Dave Stewart et c'est publié chez Futuropolis. Didier Passamonique, immense plaisir de lecture du démon de Mamie. Déjà le titre, le démon de Mamie ou la sénescence enchantée, c'est signé de la grande Florence Sestac, publié chez Dargo.
Ben, ça vient de sortir, en fait, c'est le premier éclat de rire de l'année pour moi, vraiment. Le démon de Mamie, ça raconte quoi ? Ça raconte... C'est dans la série des démons, il y avait le démon de midi, etc. Et donc là, le démon... elle se raconte elle-même, Florence. Ah oui. Hein, elle se dessine elle-même, et elle se dessine comme une grand-mère. Et une grand-mère qui a des enfants, des petits-enfants. Alors les petits-enfants lui chient dessus. Les enfants lui reprochent de ne pas s'occuper très bien de ses petits-enfants. Il y a les grosses rigolades avec les copines. C'est l'art d'être grand-mère, ce livre-là, et c'est raconté avec une énorme tendresse, sans tabou. C'est-à-dire que, par exemple, elle parle de la mort, et elle dit « J'espère que je vais mourir sur ma table de travail. » Et d'ailleurs, il y a cette citation de Philippe Drouillet qui dit « Ne venez pas à mon enterrement, je n'y serai pas. » ça raconte tout ça, et c'est fait avec une magnifique tendresse et d'une bonhomie extraordinaire. Moi, j'adore.
Ça s'appelle Le démon de Mamie ou La sénescence enchantée. C'est signé Florence Sestac et c'est chez Dargo. Alors, Frédéric Sigrist, je subodore que vous préférez nettement le comic Transformers au film Transformers.
Il n'y a pas photo.
Vous avez pris beaucoup de plaisir à la lecture du tome 1 de Transformers de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer.
Oui. Alors, initialement, quand j'ai découvert un comic book intitulé Transformers, j'ai vraiment eu des sueurs froides.
Voilà.
Parce qu'on connaît évidemment les jouets Hasbro, on a vu les films, certains ont vu les films de Michael Bay, et je me suis dit, alors ça, c'est typiquement le genre de BD un peu bourrin qui va m'énerver. Et en fait, c'est dessiné par Daniel Warren Johnson, qui est un dessinateur de comic book absolument incroyable, qui est obsédé aussi par la parentalité et notamment le rapport au père. Et derrière cette guerre qui oppose les Autobots aux Decepticons...
Pardon ?
les autobots, c'est-à-dire les gentils, les gentils robots, voilà. Et les Decepticons, qui sont les méchants robots.
Les méchants robots.
Et ben en fait,
c'est pas pour moi, c'est pour Yolaine de Chano qui vous regardait d'un air. Voilà.
Il convoque une réflexion sur la mort, le syndrome post-traumatique de soldat, à travers les machines à qui il a réussi à dessiner des expressions que les films n'ont jamais réussi à montrer. Il y a toute une richesse qui ouvre en plus sur un univers qui est largement plus étendu et qui s'appelle l'Energon Universe, c'est-à-dire qu'il y a Transformers, mais à l'intérieur de Transformers, ils ont introduit aussi G.I. Joe. Et donc tous ces univers-là cohabitent, et il y a un véritable propos, un regard sur l'Amérique actuellement, tout en utilisant les jouets de l'enfance. C'est être, pour certains spectateurs, Barbie, quand c'est sorti, c'est-à-dire le sous-texte Barbie parlait d'autre chose, eh bien l'Energon Universe et les Transformers et G.I. Joe et toutes ces séries qui découlent de ça, ça parle des États-Unis aujourd'hui et maintenant, et c'est vraiment une excellente surprise parce que j'en attendais rien. Eh ben, j'ai reçu beaucoup.
Et ça s'appelle donc Transformers. Le tome 1 s'appelle Plein Gaz. Et c'est signé Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Et c'est chez Urban Comics. Didier Passamonique, pourquoi avoir choisi Antipode d'Éric Lambé et David B. chez Casterman? Antipode.
D'abord parce que c'est la réunion entre deux auteurs que j'adore. David B, parce que c'est un des fondateurs de la maison d'édition de l'association. C'est aussi celui qui a fait parmi les plus grands romans graphiques d'aujourd'hui. C'est un dessinateur et un scénariste. Et là, il est scénariste pour Éric Lambé, qui n'est pas n'importe qui. Il a eu le Fauve d'Or il y a quelques années pour Paysage après la bataille. Et la réunion des deux autour d'une anecdote de l'histoire, c'est-à-dire ce moment où les Français décident d'envahir le Brésil pour faire pièce aux Portugais. Et donc, ils se trouvent sur une île qui est aux Antipodes. Et on se trouve avec un marin français qu'on retrouve dès les premières pages complètement nu parce qu'il vit au milieu des cannibales. Et en fait, les cannibales l'ont pas mangé parce que ils ont l'habitude d'engraisser leur animal avant de le manger et puis l'animal a plu à une des femmes de la tribu et du coup ils ne l'ont pas mangé puis surtout ils chantent très bien et donc ça raconte comment ce fort qui est construit par les Français qui est dirigé par un commandant va essayer de ramener cette âme perdue pour la chrétienté qui se trouve dans un Éden, en fait, qui est ce village. C'est super bien raconté, c'est historiquement fondé, même si ça n'en a pas l'air. C'est une des meilleures BD du moment, et d'ailleurs, elle fait partie de la sélection pour le prochain album Fauve d'Or du Festival d'Angoulême.
Heureusement qu'ils ne vous ont pas attrapé, Grégory Cohen, c'est cannibale.
Merci Aline Rébéi.
Ça s'appelle donc Antipode. Ça s'appelle Antipode. Et c'est signé Éric Lambé et David B. chez Casterman. Frédéric Segrist, que raconte la série de manga Sakamoto Days de Yuto Suzuki? C'est publié chez Glénat. Sakamoto Days.
Alors, Glénat, c'est évidemment les éditeurs de shonen, de manga extrêmement cultes comme One Piece.
Shonen,
c'est les mangas pour... les étiquettes changent, mais initialement, c'était les mangas pour jeunes garçons, comme One Piece, Dragon Ball et tout ça. Et dans le Weekly Shonen Jump, qui sort chaque semaine, il y a une œuvre absolument incroyable qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle Sakamoto Days, qui raconte l'histoire de Taro Sakamoto, qui est un ancien tueur, vraiment à la John Wick, qui rencontre une femme dont il tombe éperdument amoureux, et qui lui dit « Écoute, moi aussi j'ai des sentiments pour toi, mais par contre il est hors de question que tu continues de tuer les gens. » Et donc, en fait, il décide de devenir gérant d'une supérette, comme il y en a tant au Japon. Donc, il prend du poids. Et donc, il a des petites lunettes, une petite moustache, etc. Sauf qu'il est toujours aussi redoutable et que au fur et à mesure que l'histoire se développe, qu'on se rend compte qu'il y a une fédération d'assassins et que son nom est toujours connu au sein même de ce sérail, eh ben lui va mener l'enquête, étendre sa famille en accueillant d'autres assassins qui refusent aussi de tuer et il va neutraliser tout le monde, mais avec par exemple, vous savez, une agrafeuse, un stylo, un élastique, c'est-à-dire qu'il est toujours ce tueur impitoyable à la John Wick, sauf que il fait ça avec des moyens de super-aide. Et c'est
je n'ose imaginer avec une agrafeuse ce qu'il peut faire.
Mais c'est incroyable, vraiment. C'est un génie du dessin et de la mise en scène, c'est à voir.
Et ça s'appelle Sakamoto Days de Yuto Suzuki et c'est publié chez Glénat. Didier Passamonique, une œuvre importante, assez imposante, plus de 800 pages. C'est la vie de Bouddha d'Osamu Tezuka, publié chez Delcourt. La vie de Bouddha.
Alors, je vais vous effrayer.
C'est le volume 1. Hein.
Ouais, c'est le volume 1, parce qu'il y a 4 volumes. En fait, il y a 3200 pages. Donc, pour les gens qui disent que la BD, c'est, ouais, ça désapprend à lire, c'est déjà c'est pas vrai. Mais en plus, ici, si vous vraiment voulez devenir bouddhiste, vous faire convertir au bouddhisme, même moi qui ne suis pas croyant, j'y ai cru, bien, lisez le Bouddha Tezuka. Tezuka, c'est pas n'importe qui. Ouais. Les Japonais le surnomment le dieu des mangas, parce que dans sa vie, il a fait plus de 170 000 pages de BD et 88 films de dessins animés. Donc c'est vraiment... c'est un grand classique, c'est le Hergé, on va dire. C'est Hergé plus Walt Disney, un peu. Et c'est vraiment formidablement raconté. Pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la vie de Bouddha ou au bouddhisme, etc., c'est une œuvre incontournable. Et même pour les autres, franchement, moi je suis un agnostique total.
C'est d'une grande beauté.
C'est d'une grande beauté. Il y a des planches qui sont magnifiques. On est plongé dans une histoire qui est à la fois passionnante, parce qu'il faut le faire quand même, hein, rendre passionnant un livre religieux, et en même temps super bien dessiné.
La vie de Bouddha, donc le premier volume de plus de 800 pages, d'Osamu Tezuka, chez Delcourt, Frédéric Segrist.
Bah c'est Osamu Tezuka, c'est tout a été dit avec Didier, c'est un nom énorme. Et alors il a aussi fait la vie de Jésus.
Il en a fait deux.
Ouais, donc vraiment il les a tous faits. Hein.
Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Thibaut de Saint-Maurice, dans le plaisir de lire des BD, il y a le plaisir de penser avec les personnages de bande dessinée. Ce matin, vous vous intéressez à un monument de la BD franco-belge, Lucky Luke.
Oui, Ali, avec une question pour commencer. Pourquoi Lucky Luke réussit-il à chaque fois à mettre la main sur les bandits qu'on lui demande d'arrêter ? Quel est le secret donc du plus européen des cow-boys, né sous les crayons du dessinateur belge Maurice en 1947 et dont Goscinny a contribué à développer l'univers ? Alors oui, Lucky Luke est une fine gâchette qui tire plus vite que son ombre depuis bientôt 80 albums. Et c'est ce qui lui donne, dans ce Far West où le moindre différent se règle en 6 coups, un avantage certain sur ses adversaires. Mais ce don, mis entre d'autres mains, pourrait au contraire faire des ravages et générer plus de mal que de bien. Dans ses toutes premières aventures, en tout cas, si on les met, on les considère en tant que tels, Lucky Luke est violent et ensuite il ne cède plus jamais à la violence et il ne perdra plus jamais de vue la loi au nom de laquelle il agit. Question donc, qu'est-ce qui fait que Lucky Luke remonte inlassablement sur sa selle au début de chacune de ses aventures ?
Son sens moral peut-être ?
Oui, tel est son secret. Lucky Luke, le bien nommé, a la chance de ne pas avoir à se motiver et à se débattre entre plusieurs intérêts. Il est absolument et totalement désintéressé. Dans ce genre du western où la discipline des intérêts individuels constitue toujours un peu l'enjeu, il est peut-être même le seul personnage à agir sans jamais tenir compte de son propre intérêt. Lucky Luke n'agit pas pour l'argent, ni pour les honneurs, ni pour conquérir un quelconque poste de shérif, ni enfin pour impressionner ou s'attirer les faveurs d'une jeune femme. Il fait son devoir, un point, c'est tout. Entre sa critique de la raison pure et sa critique de la raison pratique, je suis sûr que le philosophe Emmanuel Kant aurait adoré lire les aventures de notre cow-boy préféré.
J'ai l'image en tête, là.
Voilà. Hop, entre deux critiques, une BD de Lucky Luke. Parce que pour Kant, en effet, le désintérêt est la condition de l'action morale ou du devoir, c'est-à-dire de ce qu'il est juste de faire. D'après Kant, pour qu'une action soit juste, il faut qu'elle n'ait aucune autre motivation que celle d'être effectuée par pur devoir. En ce sens, donc, c'est la pureté de l'intention qui permet de reconnaître les actions justes, celles donc effectuées par devoir, des autres que, vous savez, nous effectuons, alors certes peut-être avec des bonnes intentions, mais aussi en espérant en tirer un peu profit, comme par exemple une récompense ou juste une bonne réputation. Mais Lucky Luke, lui, il ne se pose jamais la question de ce que son énième arrestation des Dalton pourrait lui apporter ou de ce qui le pousse à mettre un terme aux agissements de Billy the Kid. Le paradoxe, c'est qu'en étant totalement désintéressé, eh bien Lucky Luke, il
peine à exister en tant que personne. Sans aucune motivation particulière, sa personnalité est aussi lisse que la ligne qui le dessine. Sa psychologie est presque inexistante, puisque la seule raison de son action est d'agir pour la loi et par la loi. Lucky Luke est sans attache, sans véritables amis, sans foyer, sans projet. Il vit le jour de son devoir, mais repart à la fin aussi seul qu'il était venu, si l'on accepte la présence de Jolly Jumper et de Rantanplan. Ainsi, la pureté morale de Lucky Luke est exemplaire, mais l'inconvénient, c'est qu'elle le repousse presque aux limites de notre humanité. Mais sa seule fonction, alors, c'est d'incarner la possibilité de la justice. Et c'est déjà quand même pas mal. Quoi qu'il arrive, où que ce soit, lui sera toujours là contre tous les Dalton du monde. Et nous, du coup, où serons-nous, hein ? De quel côté serons-nous ? Du côté de ce Far West et de ses compromissions, ou du côté de la justice et du devoir ?
Le regard de Didier Passamonique.
Moi, il y a un personnage que j'adore, c'est Avrel, parce qu'il pose la bonne question. C'est quand est-ce qu'on mange ?
Frédéric Segrist.
En fait, moi, je pense que Lucky Luke est extrêmement discret, mais qu'en fait, il a une personnalité profonde que Jolly Jumper, le cheval qui pense et qui laisse découvrir ses pensées au lecteur, connaît. Et je pense qu'il y a une forme de pudeur chez Lucky Luke qui fait que je n'ai pas à vous montrer mes atermoiements, je les garde pour mon cheval.
Guillemette.
Et puis Lucky Luke, c'est un cousin de mon Adèle Blanc-Sec, parce qu'il y a quelqu'un qui le hait constamment, absolument, c'est Joe Dalton. Oui. Cette espèce de haine aveugle, je crois que ça dessine en creux la vraie bonté de Lucky Luke.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Grégory Cohen. Alors mon cher Grégory Cohen, chef du restaurant One Place à Rungis, une recette saine et très gourmande.
Une recette super facile, saine et très gourmande. C'est le dal. Alors le dal, ça vient d'Inde, du Népal. Ça s'écrit D-A-H-L, ça peut s'écrire D-A-A-L, c'est une traduction, ça veut dire légumineuse, plusieurs légumineuses de type lentilles, et c'est ce qu'on va faire. On va donc utiliser des lentilles corail.
Donc c'est un dal de lentilles corail et au lait de coco.
Donc des lentilles corail, c'est celles qui sont un peu oranges. On va prendre 200 g de lentilles corail, 400 ml de lait de coco, donc un oignon jaune finement émincé, une gousse d'ail hachée, une tomate coupée en petits dés, mais là c'est pas trop la saison, donc on va se rabattre sur 150 g de tomates concassées en boîte, une cuillère à soupe de curry en poudre, une cuillère à café de curcuma, là il y a beaucoup de saveurs, beaucoup d'épices, donc on va rajouter une cuillère à café de cumin moulu et de gingembre râpé. Une demi-cuillère à café de piment, ça rehausse un petit peu le goût. Et puis, c'est tout, on passe à la préparation. Pour la préparation, on va faire suer son oignon dans de l'huile, dans une casserole, jusqu'à ce qu'il devienne translucide. On ajoute l'ail, le gingembre, le cumin, le curcuma, le curry et le piment. On fait revenir 1 à 2 minutes pour libérer toutes les arômes. Vous allez voir, ça va embaumer dans la cuisine. C'est exceptionnel. On ajoute ensuite les tomates. On les laisse mijoter quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient légèrement réduites et fondantes. On ajoute ensuite les lentilles corail. On verse le bouillon de légumes. On mélange. On porte à ébullition une première fois. Dès qu'on est à ébullition, on réduit le feu et on laisse mijoter 15 à 20 minutes en remuant de temps en temps jusqu'à ce que les lentilles soient tendres. Une fois que les lentilles sont cuites, on ajoute le lait de coco, on mélange bien, on relaisse mijoter 5 minutes supplémentaires et on le sert accompagné de riz blanc avec du coriandre frais dessus.
Basmati.
C'est riz blanc basmati avec du coriandre frais dessus ou du riz sauvage. Et puis c'est excellent, ou alors avec des naans qui sont les pains indiens. Et vous, Alili, comment votre dalle ?
Non, moi, je fais un mélange d'huile et de beurre clarifié, donc du ghee. Et moi, j'aime bien rajouter des pois chiches aux lentilles. Et c'est vrai que c'est absolument délicieux. Dans la cocotte, en 20 minutes, c'est fait. Sandra Colombo.
Ah ben moi, j'en mange très souvent, puisque je ne mange pas de viande. Donc, c'est un plat que je fais souvent. Et ce qui est super, je trouve, c'est qu'on peut en faire une grande quantité, puisque c'est la même énergie. Et après, on le congèle, on fait des portions, et c'est super.
Qui est fan de dalle autour de la table ? Non, vous, Frédéric Segrist, non, pas trop.
Alors, Comme Sandra vient de le dire, on mange parce qu'elle ne mange pas de viande. Et comme moi, je mange de la viande pour elle qui n'en mange pas. Voilà.
Oui, pardon, Didier Passamonique.
Moi, je suis plutôt pour les recettes de Gaston Lagaffe, c'est genre les anchois aux fraises et à la crème fraîche.
C'est bien ça aussi. Oui, mais ça, vous êtes belge, donc on vous excuse tout. Hein.
La recette, la très bonne recette de dalle de lentilles corail au lait de coco de Grégory Cohen, c'est à retrouver sur son compte Instagram, Grégory Cohen Off avec...
Deux F.
Et sur franceinter.fr. Dans un instant, la chronique de Sandra Colombo, Mauvaise Langue. Ce sera juste après avoir écouté Enchantée Julia qui interprète Save Me.
Entre tes ailes et montée des eaux, la terre brûle mais l'enfer c'est les autres. Je fais le saut de l'ange, Dieu de la Seine, je saute. Seine et sauve-moi, je m'en sors, Seine et sauve. Billet bleu ouvert sur paix ouvert, comme un pansement sur cœur ouvert. Baby, je suis ton mélado, et toi pour me sauver, t'as trouvé deux anneaux. Baby, baby, save me. Baby, baby, save me. Baby, baby, save me. Au pied du puits, j'étais au fond des eaux. Sans réseau, moi j'avance sans les autres. Baby, je suis ton méalo. Et toi, pour me sauver, t'as trouvé les anneaux. Baby, baby, save me. Baby, baby, save me. Baby, baby, save me.
Enchantée, Julien interprété Save Me.
France Inter.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rends bien vous fasse.
C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Elle est très très gentille, Sandra Colombo. Mauvaise langue.
Oui, je veux pas être mauvaise langue, Ali, mais est-ce que c'est pas beaucoup trop joyeux pour être honnête, cette émission ce matin? Non, mais comme on est là à s'emballer sur la BD, ce soi-disant 9e art. Non, mais on dirait les Français pendant les JO, positifs, au taquet, enthousiastes, rien à redire, éblouis par la beauté de leur pays. Mais où sont nos névroses, j'ai envie de vous dire? Non, mais vous avez vu l'état du monde? Excusez-moi, mais vous croyez qu'une semaine qui a commencé avec le geste facho d'Elon Musk à l'investiture de son petit pote Trump annonce des jours jolis jolis ? Vous croyez que c'est en gribouillant des bidules sur une feuille et en mettant des bulles au-dessus qu'on va réussir à s'en créer une de bulles de douceur et de bien-être ? Bah non ! Et en plus, comment ça s'appelle les BD aux États-Unis ? Des comics ! Si c'est pas de la provocation, vous la trouvez comics la vie en ce moment ? Vous croyez qu'on a envie de rire ? Bah non ! Et puis alors, pardon, hein, mais est-ce que finalement, ça serait pas à cause de la BD, justement, tout ça ? Parce que bon, j'ai bien réfléchi, et pas que dans un miroir, et voilà ma théorie. Je pense que Mark Zuckerberg a été biberonné au super-héros des comics. Et qu'est-ce que ça a provoqué, Ali, dans son cerveau de petit garçon mal dans sa peau? Car oui, Ali, Marc, il est mal dans sa peau, c'est sûr. Bah, comment ça pourrait en être autrement quand on a une mère psychiatre, un père dentiste et qu'on est le seul garçon au milieu de trois sœurs? Que son kiff, c'est le latin, l'antiquité grecque et romaine et la programmation informatique. Qu'est-ce qui reste pour s'épanouir? À part le Biactol et les BD de super-héros? Ben rien. Voilà, donc le Marco, pour trouver de la joie, dans sa tête, il se vit comme un super vilain qui met le monde à sa botte et qui séduit les belles. Ah ben tiens d'ailleurs, vous croyez qu'elle vient d'où son idée de Face Match, l'application super moche qu'il a construite avant Facebook et qui permettait de noter les étudiantes les plus sexy d'Harvard à partir de leurs photos? Les comics lui ont retourné le cerveau. Et des années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ah ah ah, bah grosse crise de la quarantaine. Le Zouk, il en a ras la couane d'être perçu comme un gentil garçon dont la seule révolte consiste à porter des claquettes chaussettes. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il repense à toutes ces pages pleines de super-héros badass. Il se dit que maintenant, ça suffit. C'est son tour, dans la vraie vie, de terroriser la Silicon Valley. Et peut-être même le monde entier, car bon, il est dorénavant très très riche. Et donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Nananer. Alors, avec sa grosse fortune, il se rachète toutes ses BD de quand il était petit. Il relit compulsivement tous les strips qu'il avait excités plus jeune. Il mate toutes les cases. Et paf, il se métamorphose en combattant de MMA avec cheveux longs bouclés, chaîne en or qui brille, Rolex à 900 000 dollars et énergie masculine en intraveineuse. Et pompon sur la pom-pom girl, devinez où est-ce qu'il les achète ces BD ? Bah chez son pote d'Amazon, Jeff Bezos, bien sûr. Et là, c'est nous qu'on se fait Bezos. Alors voilà, Ali, je vous mets en garde. La BD, ça change la vie. C'est dangereux. Bon, ceci dit, on aurait pu s'en douter dès le départ. Hein, car en 1830, son inventeur, le Suisse Rodolphe Töpffer, ouais, la meuf a regardé Wikipédia, ouais, plaça la barre très haute en parlant de littérature en estampe. Oh non, mais le melon du gars ! Et pourquoi pas nous dire que grâce à ces petites cases, la BD nous permet de vivre des tonnes d'aventures, de rire, de réfléchir et de nous cultiver tant qu'on y est. Non mais n'importe quoi. Pff. Bon allez, moi je retourne à mes vrais livres parce que lire des images, ça me perturbe.
Et vous l'appelez donc le zouk ?
Le zouk, oui.
Vous savez ce que ça veut dire en arabe dialectal, le zouk ?
Non, pas du tout.
Les fesses. Voilà.
Oh ma gueule. Ça lui va bien.
Mauvaise langue de Sandra Colombo à podcaster sur l'appli Radio France et on vous retrouve en spectacle mardi.
Le mardi à 21h15 au point virgule, que faire des cons et aussi en tournée partout en France.
Merci beaucoup aux amis du vendredi, Sandra, Grégory, Guimette, Yolène et Thibault. Merci Didier Passamonique, je recommande votre site actuabd.com. Merci Frédéric Sigrist, tous les épisodes de Blockbuster sont à écouter sur l'appli Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Cyrine Benyounès et Lucie Grandet-Lavigne avec l'aide d'Antoine Boitras, la réalisation Claire Destacant et à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, on se demandera quelles sont les dernières innovations pour lutter contre la maladie de Parkinson. Et j'aimerais dédier cette émission au grand journaliste Jean-François Kahn, fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne, décédé hier. Une pensée à sa femme, Rachel Kahn.